Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Un podcast France Culture.
Dans le cadre de notre série d'émissions mensuelles consacrée au défi de l'Europe verte et qui nous a déjà donné l'occasion de traiter de la pêche puis de l'agriculture, nous regardons aujourd'hui du côté du pacte vert. L'Europe et le climat, objectif neutralité carbone à horizon 2050, 4 ans après son lancement, bilan et perspective du Green Deal, entre avancées, déceptions, succès et contestations, quel avenir se profile pour le pacte vert européen, comment financer ce qui apparaît comme une nécessité face à l'urgence climatique, peut-il devenir un choix stratégique pour bâtir une Europe plus souveraine et résiliente, autant de points qui seront abordés avec nos deux invités en direct. Marie Toussaint, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, vous êtes juriste, députée européenne Europe Écologie Les Verts et donc tête de liste aux élections européennes. Avec vous, Gézabel Coupé-Soubéran, bonsoir.
Bonsoir.
Merci également de vous être libérée. Vous êtes économiste, maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et conseillère scientifique à l'Institut Veblen, co-auteur du livre L'économie mondiale 2024, alors un livre édité à La Découverte, et on peut mentionner le livre Le pouvoir de la monnaie, paru au Lien qui libère. Et puis dans l'œil du monde planète, le journaliste du quotidien Le Monde, Mathieu Gohard, nous parlera de la planification écologique percutée par les crises. Bienvenue à toutes et à tous, c'est votre magazine de l'environnement, bien sûr, sur France Culture, préparé par Anaïs Morales, avec l'appui de Sandrine Chaperon, Vanessa Chang, l'appui aussi des équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique Jean-Guy Lamège. Alors pour commencer, parlons bien, j'ai envie de dire, le pacte vert, c'est quoi précisément ? Marie Toussaint.
Le pacte vert, ça a été une proposition de programme de mandature, c'est pas seulement un seul texte, c'est en réalité 50 textes pour nous mettre sur la voie de la neutralité climatique en 2050. Je veux quand même dire que si ce pacte vert existe, c'est parce que, souvenez-vous, en 2018-2019, on a vu fleurir partout une immense mobilisation citoyenne. Ça a été Greta Thunberg et les millions de jeunes qui se sont levés à son appel. Ça a été en France l'affaire du siècle, que j'avais initié avec l'association Notre Affaire à Tous et d'autres. Ça a été aussi de bons scores électoraux des écologistes aux élections européennes. Et donc, finalement, la majorité politique qui se met en place, sans les Verts, mais décide de faire de l'écologie le programme de sa mandature. Et donc, 50 textes ont été mis sur la table qui visent cette neutralité climatique à horizon 2050. Et on a égrené, au fur et à mesure du mandat, on a étudié un certain nombre de textes. D'abord sur le climat et la décarbonation, puis sur la biodiversité, la santé. Mais j'y reviendrai parce qu'il y a un moment où ça s'est arrêté, où la machine s'est enrayée, mais qui devait nous permettre, nous mettre sur la voie d'une Europe bonne pour le climat, mais aussi pour la santé, pour la nature. Voilà.
Donc une feuille de route, on peut dire, environnementale. Alors avec deux horizons, on a parlé de 2050 et puis il y a un autre horizon dessiné, celui de 2030, avec pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport au niveau de 1990. Voilà, on a quand même des références de cet ordre. Et donc, vous le disiez, Marie Toussaint, avec des moyens qui vont être mobilisés, on va entrer un peu plus dans le détail, bien sûr, dans un instant, dans tous les secteurs, réduction des émissions de gaz à effet de serre, transformation de certains secteurs, l'agriculture, l'industrie, la finance, décarbonée et puis le secteur énergétique, bien sûr, qui représente, il faut le rappeler, plus de 75% des émissions de gaz à effet de serre de l'Europe. Gézabel Coupé-Soubéran, rester en dessous de 2 degrés en Europe, alors ça c'est l'objectif, on peut se poser la question, est-ce que c'est une réalité ou une illusion ? Parce qu'on sait que le gouvernement français travaille quand même à un plan d'adaptation à 4 degrés et que l'Europe est quand même l'un des continents qui se réchauffe le plus vite. Alors voilà, on est toujours sur cet horizon, on a le sentiment qu'on est presque à minima, peut-être pour rassurer l'opinion publique.
Hein alors l'objectif initial, hein, quand même, c'était d'essayer de limiter le réchauffement à plus 1,5 degré. Et puis après, ben, on a effectivement glissé vers un objectif de plus de 2 degrés. Mmh. Et vu les trajectoires actuelles, même si les émissions de gaz à effet de serre en Europe diminuent, enfin ça dépend comment on les regarde. Si on regarde ça au niveau de notre production, effectivement, nos productions sont de moins en moins émettrices de gaz à effet de serre, mais si on regarde ce qu'on importe, alors là le diagnostic est un petit peu plus plus inquiétant, et on n'est pas actuellement sur une trajectoire nous menant à respecter un objectif de réchauffement inférieur à 2 degrés. On arrivera malheureusement au-dessus, et parce que les actions engagées sont encore très en deçà de ce qu'il faudrait faire. Alors, ce pacte vert, c'est quand même quelque chose d'important et c'est quelque chose de prometteur. Mais peut-être que il faut revenir un peu sur l'approche qui a été choisie en Europe. On a dit, on a rappelé les objectifs du pacte vert. L'objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050, l'objectif intermédiaire de diminution de 55% des émissions. Quels sont les instruments? Il y a trois grands instruments en fait dans ce pacte vert qui définissent assez bien en fait l'approche européenne en la matière. Le premier instrument, c'est un prix du carbone. Mmh. Avoir un prix du carbone suffisamment élevé avec un système d'échange de quotas carbone. Et ça, déjà comme premier instrument, ça dit pas mal de choses de l'approche, parce que ça témoigne d'une certaine confiance quand même dans les solutions de marché. D'accord. Est-ce que c'est le marché qui nous amènera à respecter les limites planétaires? Bon, oui. Ça se discute. Le deuxième instrument, c'est tout un ensemble de régulations, d'accord. Donc on en passe par des réglementations, et ça, c'est peut-être finalement un instrument plus efficace en la matière. Et puis le troisième instrument, ce sont des aides à l'investissement, des subventions, avec en la matière peut-être une façon de les allouer, une attribution de ces subventions peut-être un petit peu moins efficace que ce qui se passe outre-Atlantique. Mmh. Et puis aussi une interrogation sur notre capacité précisément à pouvoir offrir ces subventions, ce qui nous ramène à la question du financement.
Et on va s'y intéresser dans un second temps, bien sûr, au financement. Auparavant, on va rester sur les principaux outils dont vous parliez, et peut-être entrer dans le détail, Marie Toussaint, ces principaux outils mis en place ces quatre dernières années pour parvenir à enclencher, en tout cas, une modification, inverser un petit peu la tendance et puis réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Peut-être qu'il y a certains points qu'on peut aborder. Alors, si on part que sur les véhicules, la vente des véhicules thermiques interdite à partir de 2035. Dès 2030, les véhicules neufs devront émettre 55% de CO2 en moins. Voilà, vous pouvez certainement rebondir sur des choses qui, finalement, ont été vertueuses, ont fonctionné, et puis peut-être d'autres qui mériteraient aujourd'hui qu'on y regarde plus précisément.
Il y a eu des décisions qui ont été prises dans le cadre du pacte vert qui ont vocation à transformer en profondeur quand même notre société. La fin des voitures thermiques en est un. Ça ne traite pas de la question derrière de l'électrification, du nombre de voitures, de leur poids, de leur taille, qu'il faut absolument traiter si on veut respecter toutes les limites planétaires et pas garder l'œil fixé sur le CO2. Il y a eu d'autres décisions effectivement normatives qui ont été prises, mais je veux revenir sur ce que soulevait Jezabel Coupé-Soubéran. En fait, le souci, j'ai envie de dire, c'est que Madame von der Leyen investit, dit « je veux faire le pacte vert ». C'était indispensable, c'est indispensable, et c'est indispensable de le poursuivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça bute et qu'on revient en arrière? Je pense qu'on y reviendra plus tard. Parce que il y avait un défaut d'origine dans ce pacte vert. C'était le refus de changer de modèle économique. Donc aujourd'hui, on dépasse 6 des 9 limites planétaires. L'économie est totalement sortie de son lit. Et donc le travail qui devrait être celui de l'Union européenne, qui est la bonne échelle pour agir sur le climat, sur la biodiversité et sur l'économie, eh bien, c'était de remettre l'économie dans son lit. dans le lit du fleuve, voilà, le retour au respect des limites planétaires. Et c'est pas ce qui a été fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a lancé le pacte vert en gardant une PAC inchangée qui représente beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, qui est structurant pour notre territoire, en gardant une PAC inchangée, en gardant des accords de libre-échange et la même logique qui se poursuit encore aujourd'hui. On est encore en train d'adopter, alors pas nous les écologistes, mais on est encore en train d'adopter des accords de libre-échange au moment où on se parle en pleine mobilisation agricole. Donc un cadre, notamment sur la question agroalimentaire et la question économique en général, qui était inchangée. Deux, Isabelle a mentionné quelques aides, mais en réalité, pas de financement du pacte vert. Pas de réel financement, en tout cas, il y a quelques éléments qui ont bougé, mais honnêtement, c'est des virgules. Alors qu'on a vu que l'Union européenne était capable de se mobiliser, de mobiliser de l'argent face à la crise sanitaire, puis face à la guerre en Ukraine, pas assez, mais c'est une autre question, mais devant le défi climatique, pas de volonté de l'Union européenne de trouver des solutions pour dégager les moyens dont on a besoin. Et puis trois, un refus de redistribution des ressources, et notamment des ressources monétaires. Un refus de redistribution, de changement de rapport de force économique. C'est-à-dire qu'on n'a pas regardé est-ce que c'est les patrons, est-ce que c'est les salariés, ah tiens, est-ce que les consommateurs pourraient avoir un peu plus de pouvoir et les citoyens ont peut-être leur mot à dire. Et donc, comment est-ce qu'on ajuste ça?
Donc, on c'est a le pas, volet social on a pas, à associer
à. C'est plus que le volet social, parce que c'est vraiment comment est-ce qu'on met en place un modèle économique qui respecte la théorie du donut de Kate Raworth, c'est-à-dire le plafond environnemental et le plancher social. Et de pas se dire seulement, hop, on va saupoudrer des aides sociale quand il y a besoin, mais de se dire comment est-ce que toute l'économie, elle peut rentrer dans ce donut-là et respecter à la fois ce plafond et ce plancher.
Isabelle Coupé-Soubéran, sur cette question-là, c'est-à-dire vraiment changer de modèle économique.
Oui, c'est tout à fait juste ce que vient de dire Marie. Il y a à la base ce refus de changer de modèle, mais en même temps, j'ai envie de dire, si l'approche avait été différente, est-ce que Ursula von der Leyen aurait réussi à
emporter tout le monde?
Oui, à emporter tout le monde dans ce Green Deal, qui est en effet une approche en fait de croissance verte. Donc oui, on ne change pas de modèle, on reste dans une société de la croissance et on cherche juste à décarboner un peu cette croissance. Alors c'est très frustrant en effet parce que ça ne va pas suffisamment loin dans la transformation, dans la bifurcation. Et en même temps, s'il ne s'en était pas tenu finalement à cette approche vraiment Green New Deal,
oui.
Eh bien,
il n'aurait
peut-être
pas été
voté. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu de pacte vert, du tout. Alors, ce qu'on peut relever aussi peut-être, c'est juste un autre point, c'est que ce pacte vert est en fait très centré climat. Il y a très peu de choses autour de la biodiversité.
On a parlé des véhicules, mais rénovation des bâtiments, améliorer le stockage de carbone dans le sol, alors quand même, et réduire le recours aux énergies fossiles. Alors, on a parlé à un moment d'une taxe carbone aux frontières en 2026. Je pense que là, on n'en est peut-être plus là. Mais effectivement, comme vous le disiez,
c'est important.
Mais on est sur cette question plus climatique qu'environnementale.
Oui.
Alors que les deux sont liés.
C'est ça. On est très centré climat et ça veut dire, si vous voulez, une vision étroite de la transition. La transition climatique, ce n'est qu'un sous-ensemble de la transition écologique. Et dans la transition écologique, il devrait y avoir en effet cette volonté de transition juste, d'associer, d'imbriquer le volet écologique et le volet social. Et on n'en est pas là. Alors, il y a un petit fonds social pour le climat qui a été mis en place dans le cadre du pacte vert. Mais effectivement, c'est tout petit, avec une dotation de 65 milliards pour 2023-2026. Ça fait 20 euros par citoyen européen. Ça fait pas grand-chose.
Je rebondirai là-dessus, puisque pour moi, en fait, dans le pacte vert, il y avait quand même beaucoup de choses. Parce qu'il y a tout le paquet zéro pollution qui est quasiment pas passé. Il y a quelques petits hiboux qui sont passés sur la qualité de l'air, par exemple, qui est en train d'être discuté. On est toujours pas aux normes de l'OMS, mais bon, il y a quelques petites avancées. Et le paquet biodiversité nature qui est quand même là. Le seul problème, c'est que en début de mandature, on s'est intéressé, on a adopté des textes qui étaient ciblés carbone plutôt que climat, parce que du coup, climat, c'est l'interaction de tout ça. Donc sur le carbone. Et puis, hop, quand on a commencé à s'approcher des questions de la pollution, et donc qui touche aux produits chimiques et toxiques. Là, ça allait plus, mais parce que les lobbies de l'industrie en particulier sont extrêmement mobilisés et contre toute réforme, toute interdiction des produits qui sont pourtant nocifs pour notre santé. Mmh. On a des cancers qui se déclarent de plus en plus jeunes, de plus en plus nombreux. Bon, voilà. Et sur la nature et la biodiversité, là, on touchait au lobby de l'agroalimentaire. Et donc là, c'était pas possible. Et on a arraché quelques mesurettes sur les emballages avec un lobbying monstrueux de McDonald's et de Lactalis qui font quand même aussi partie de ce lobby agroalimentaire. Et donc, en fait, là où il y avait une forme de consensus entre les partis et dans le monde économique sur la décarbonation. La décarbonation, je crois que tout le monde a compris qu'il faut y aller. Alors, il y en a qui veulent y aller plus vite que d'autres, hein. Il y a cette bataille-là. Mais sur tout le reste, il y a une résistance des forces extrêmement puissantes qui s'opposent à cette transformation-là. Et donc, on a été même pas à la moitié du pacte vert en réalité.
Donc, une résistance et des reculs, hein. Vous parliez des produits chimiques. On a vu le report de la révision de la réglementation sur les substances chimiques, hein, le REACH, et la réautorisation en novembre 2023 du glyphosate pour 10 ans de plus. On perçoit de plus en plus, et peut-être dans une société atteinte aussi elle-même de plus en plus par d'autres crises, donc avec ce millefeuille de crise, on commence à percevoir voir cette Europe secouée par ces crises successives et donc peine à avancer face aux demandes de pause, notamment réglementaires. Je vous propose d'écouter ce reportage diffusé sur France 2 le 11 décembre 2023.
L'extrême droite est devenue le premier parti des Pays-Bas et elle a dit qu'elle se débarrasserait de beaucoup de lois du plan Azote.
Si le plan avait été appliqué, cet éleveur aurait dû se séparer d'une partie de son cheptel. Mais à sa grande satisfaction, il conserve sa centaine de vaches pour le moment.
C'est parfait pour nous, parce qu'on ne veut pas diviser par deux le nombre de vaches de notre exploitation, bien sûr.
En matière d'environnement, les Pays-Bas ne sont pas les seuls à appuyer sur le frein. L'Allemagne a suspendu une nouvelle norme de construction devant limiter les passoires thermiques. La France a repoussé de 2 ans la fermeture de ses centrales à charbon. À Bruxelles aussi, le pacte vert a moins la cote. Après les votes sur la fin des moteurs thermiques et la taxe carbone aux frontières, une dizaine de dirigeants réclament l'arrêt de toute nouvelle réglementation.
Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne.
Pour moi, il faut se concentrer déjà sur les lois adoptées.
Je demande à ce qu'on appuie sur pause.
Conséquence, plusieurs lois ont été mises au placard. Réduction des pesticides et des produits chimiques, alimentation durable, bien-être animal. Et l'usage du glyphosate a été prolongé pour 10 ans. Pour les eurodéputés de droite, pas question de braquer l'électorat rural.
Si nous laissons les agriculteurs de nos pays profondément fragilisés par des règles inadaptées, on ne peut pas considérer qu'on va sauver la planète en rendant la vie des gens impossible.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Marie Toussaint, une réaction peut-être avant que nous regardions du côté de la réponse financière. Est-ce que vraiment ce pacte vert qui essuie des revers, hein, et qui est donc à l'épreuve des crises successives, Covid-19, crise des prix de l'énergie, crise économique, colère des agriculteurs, etc. Est-ce qu'on peut voir le pacte vert vidé de son contenu ?
Ah oui. On peut le voir vider de son contenu. Mais si je peux me permettre, parce que le son que vous venez de nous diffuser me met en colère quand même un petit peu. Hein. On entend les droites, dans leur diversité d'ailleurs, dire que finalement les écolos sont là pour emmerder le monde, alors qu'on est là pour le protéger. Et quand Monsieur Bellamy, hein, que j'ai reconnu, dit finalement on met en place des normes environnementales pour rendre la vie impossible des agriculteurs. Bon, écoutez, les agriculteurs sont aujourd'hui enfermés dans un modèle absolument pas écolo, hein, qui ne leur permet pas de vivre dignement de leur travail. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, non seulement ils tombent malades du fait des pesticides qu'ils répandent, hein, qu'ils ont entre les mains, dans le cadre d'un modèle auxquels ils sont finalement enchaînés. Mais en plus de ça, ils sont en première ligne face au dérèglement climatique et donc extrêmement régulièrement, on a des épisodes de chaleur avec des gels, enfin des floraisons qui adviennent de plus en plus tôt, des gels qui arrivent quand même et qui cassent les cultures. On a des vignes balayées par les flammes, on a plus d'eau, tout ça largement concentré en Occitanie, mais qui touche un peu partout. Donc ce qui rend impossible et ce qui va rendre de plus en plus impossible la vie des paysannes et des paysans dans notre pays et dans notre continent, c'est quand même l'inaction climatique.
Donc il faut les aider à franchir le cap et à faire dire, face je crois que aux conséquences veulent, du réchauffement
ceux
climatique.
Ceux qui arrêtent aujourd'hui le pacte vert et même qui le font revenir en arrière, hein, ce sont des briseurs d'avenir, voilà, et il faut le dire. Et par ailleurs, ils mentent à la population. Mais le pacte vert aujourd'hui, on a d'abord cru, il y a un an, au moment où le Parti populaire européen, la droite traditionnelle, a appelé un moratoire, Emmanuel Macron qui embraye 3 jours plus tard en appelant une pause réglementaire environnementale, on a d'abord cru que ça allait s'arrêter, qu'on n'allait plus réussir à avancer. Et quand on est face à une telle urgence climatique et environnementale, ne plus avancer, c'est déjà reculer. Mais on pensait que ça allait s'arrêter là. Et c'est pas ce qui s'est passé. c'est pas ce qui s'est passé. On est revenu en arrière déjà sur des législations qui avaient été adoptées, soit dans le cadre du pacte vert, soit auparavant. Mais par exemple, nous sommes en train, et nous les écologistes n'allons pas réussir à l'arrêter, mais la majorité politique européenne est en train d'introduire des OGM, supposément de nouveaux OGM, mais partout sur le territoire, sans traçabilité aucune, ni pour les paysans, ni pour les consommateurs. Et en plus de ça, sans possibilité pour un État de dire « je ne veux pas » de ces plantes, ces semences sur mon territoire. On a eu la prolongation du glyphosate pour 10 ans. On a eu, il y a 2 semaines, l'introduction de méga-camions de 60 tonnes sur les routes européennes. Alors là, les États ont la possibilité de s'y opposer, mais enfin, les camions, ils circulent pour transporter des marchandises. Évidemment, ça fait concurrence au train dans lequel rien n'a été investi. Donc on voit bien tous ces reculs, et cette semaine, les reculs sur la politique agricole commune qui était déjà ni juste ni verte, et on dit, bon bah, la mobilisation des agriculteurs, la colère des agriculteurs, elle est liée à la question écolo. Et donc, on bazarde tout. C'est vrai sur les jachères, c'est vrai sur l'eau. Ces reculs, on les constate au quotidien. Et je veux vraiment insister sur ce point parce que ce qui va se passer dans le cadre des élections européennes, le 9 juin prochain, c'est de savoir, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on cède? Est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on est passé dans l'ère des grands reculs en arrière? C'est ce qui nous pend au nez et c'est ce contre quoi il faut absolument se battre.
Des reculs, peut-être, Isabelle Coupé-Soubéran, qu'on peut aussi expliquer par un non-investissement suffisant vers des alternatives aussi, ou, parce que enlever d'un côté, mais ne pas permettre d'avoir des solutions, c'est aussi un réel problème hein, au quotidien pour les citoyens.
Oui. Le manque d'adhésion qui peut être exploité par les lobbies ou par les climato-sceptiques s'explique, oui, en grande partie par le fait que on n'aide pas tout le monde à entrer dans cette transition. Donc ça, c'est vraiment un gros point d'achoppement en fait de ce pacte vert. Xavier Timbaud qui a signé un chouette article dans le dernier numéro de l'économie politique. C'est un numéro qui est sur l'Europe face au désordre mondial, et il fait un point sur le pacte vert, et il explique que effectivement le pacte vert est au milieu du gué. Il explique ça en expliquant un peu les motifs d'inquiétude, alors en revenant notamment sur le fait que il y a beaucoup d'incertitudes sur la prochaine alliance politique en fait après les élections européennes. Et puis il y a cet aspect en effet de moyens qu'on affecte aux investissements dont on a besoin pour réaliser ce pacte vert. On a besoin de réaliser des masses d'investissements, mais quel financement en fait on accorde à ça? On est quand même dans une situation au fond très particulière en Europe. On est dans une union très très incomplète. On n'a pas d'union budgétaire, on n'a pas d'union fiscale. On a des règles budgétaires qui limitent considérablement les marges de manœuvre, qui devait faire l'objet d'une réforme profonde. On a plutôt une réformette. Donc tout ça.
C'est-à-dire les règles historiques, c'est ça qui.
Les règles historiques qui sont maintenues.
La règle de déficit du PIB. Là où on a su donc aujourd'hui que le déficit budgétaire de la France était à 5,5% du PIB. Et donc aussi des règles concernant les dettes publiques à 60% du PIB. Donc tout ça, ce sont des freins en fait.
Ces règles demeurent et nous enferme effectivement dans un carcan budgétaire. Donc les questions qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on finance tous les investissements dont on a besoin. Et je crois qu'on a besoin, si vous voulez, d'avoir une vision assez systémique, une vision assez large en fait de ces investissements dont on a besoin. Il faut réaliser que tous les investissements à réaliser sont pas nécessairement des investissements rentable financièrement parlant, avec un retour financier. Il y a bien sûr des investissements avec un retour financier qui ont maintenant un bon modèle économique, des investissements rentables financièrement. Les investissements dans les énergies renouvelables, typiquement, c'est devenu des investissements rentables. Pour ça,
On peut mobiliser des financements privés.
Exactement. On peut mobiliser des financements privés. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de politique publique volontariste à ce niveau-là, parce que ces flux financiers privés ne sont pas encore bien orientés vers des investissements verts, même rentables, sans doute parce qu'ils sont peut-être moins rentables que les investissements qui ne sont pas verts. Donc, il y a vraiment à faire du côté de, notamment de la politique monétaire, du côté de la réglementation des banques, pour forcer les banques, en fait, à flécher vers des investissements verts.
Oui, parce qu'il faut bien préciser aussi pour les auditeurs que ce n'est pas parce qu'on investit dans le vert, comme on dit, donc c'est pas parce qu'il y a des investissements verts qu'il y a moins d'investissements dits bruns, c'est-à-dire vers les énergies fossiles.
Alors oui, ça,
en fait, là aussi, ça vient s'ajouter.
Ça, c'est encore un autre problème. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect rentabilité des investissements, et on n'a pas fini de les présenter, mais il y a aussi cet aspect que vous soulignez, à savoir que, on investit dans les énergies renouvelables, on fait des investissements verts, mais on continue d'investir dans les énergies fossiles. Donc ça veut dire que, malheureusement, le vert s'empile.
Ah oui, le fameux millefeuille.
C'est le millefeuille, et ça aussi, si vous voulez, ça peut nous amener d'ailleurs à sous-estimer le besoin de financement, et à surestimer la réorientation dont on voudrait qu'elle s'opère facilement. En fait, cette réorientation, elle n'est pas si facile. Et c'est pour ça qu'il faut des politiques publiques, du côté de la politique monétaire, du côté de la régulation financière, très volontaristes en la matière, et elles ne le sont pas suffisamment. Et puis, alors, outre ces investissements rentables, eh bien, il y a également, quand on pense, si vous voulez, à tous les programmes de rénovation thermique, c'est du rentable très incertain ou à très long terme. Pour ça, eh bien, on va pas financer avec des fonds privés. Il faut mobiliser des investisseurs, des financeurs très patients. Il faudrait, par exemple, qu'on puisse vraiment mobiliser davantage des banques publiques de financement. Mais là aussi, on a besoin de politiques publiques volontaristes. On a besoin de retravailler sans doute les conditions de refinancement de ces établissements auprès de la Banque centrale. C'est-à-dire que si les ressources de ces banques publiques de financement coûtent cher, eh bien, les prêts qu'elles accorderont coûteront cher aussi.
Ce que vous nous dites, c'est que les banques centrales ont un rôle à jouer, et la BCE, la Banque Centrale Européenne, elle aussi.
Bien sûr.
Voire potentiellement effacer des dettes.
Alors,
c'est encore un autre point.
Déjà, ce qui est intéressant, si vous voulez, au niveau des banques centrales, c'est qu'aujourd'hui, et notamment la Banque Centrale Européenne, a conscience de la nécessité pour elle de contribuer à la transition écologique. Donc ça, c'est déjà un point. Après, entre cette prise de conscience qu'on entend dans les discours de banque centrale, et puis les actes, c'est quoi? C'est vraiment verdir la politique monétaire, c'est faire en sorte que les banques qui jouent le jeu de la transition puissent se refinancer auprès de la banque centrale à un coût moins élevé que celles qui sont encore dans le financement de projets fossiles. Là, on n'en est pas là. Et puis encore un troisième aspect, et puis après je vais laisser réagir.
Oui, mais c'est important de poser les choses effectivement quand même pour bien comprendre, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent.
Exactement.
Et que là, on parle plutôt de dette, de déficit budgétaire, etc. Ça fait peur à beaucoup de personnes, et là on dit il faut encore plus d'argent.
Oui.
Donc en même temps, il faut pouvoir expliquer comment ça fonctionne sans qu'il y ait banqueroute, toi.
Exactement. Donc on a évoqué les investissements privés rentables, et on a dit un peu de fonds privés avec des politiques publiques volontaristes, des investissements moins rentables ou à plus long terme dans les rénovations thermiques notamment. Pour ça, il faut des financeurs très très patients, et plutôt des financeurs publics. Et il y a toute une autre masse d'investissements. Ceux-là ne seront pas rentables. Quand on pense à des gros investissements d'infrastructures, bon, bah ça, c'est difficilement rentable. Quand on pense aux réparations de pertes de biodiversité, eh bien, ça, c'est pas du tout rentable. Quand on pense, si vous voulez, à tous les accompagnements sectoriels, notamment, Marie parlait des agriculteurs tout à l'heure.
Oui.
Eh bien, si on veut vraiment les amener à changer de modèle, il faut un accompagnement, il faut des aides, et ces dépenses-là, eh bien, ce sont des dépenses sans retour financier. Comment comment on finance tout ça? Il faut énormément de fonds publics pour cette masse de dépenses-là, pour cette masse d'investissements-là sans retour financier. Et pour ça, eh bien, il faut vraiment, si vous voulez, qu'on aille chercher en fait les solutions. Est-ce que les solutions, c'est du côté de la dette? Bah, là, on voit bien qu'on va difficilement pouvoir rajouter de la dette à la dette, surtout sans union budgétaire. Est-ce que les solutions sont fiscales? Peut-être un peu, mais
même, ça ne suffira pas.
Ça ne suffira
mais
pas.
Mais ça peut aider.
Et il faut des solutions. Je pense qu'il ne faut pas se priver de solutions monétaires. Les banques centrales dont on parlait, elles sont allées loin dans les solutions monétaires pour gérer la crise financière, la crise sanitaire. Eh bien, face à la crise écologique, il faut qu'elles, là encore, qu'elles innovent.
Parce que si on ne fait rien, ça coûtera encore plus cher.
Exactement. Et donc, on a besoin, en fait, de mobiliser ce pouvoir monétaire, cette puissance monétaire des banques centrales, qui sont des institutions qui ont un pouvoir de création monétaire ex nihilo. On a besoin de ça. Elles l'ont mobilisé face aux crises pour sauver le capitalisme financier. Eh bien là, il faut qu'elles mobilisent cette puissance-là, il faut qu'on leur demande de mobiliser cette puissance-là pour transformer ce capitalisme financier, pas en faire simplement un capitalisme vert avec des petites touches de vert, mais vraiment transformer le capitalisme financier. On pourra
développer, et puis surtout, vous en tant qu'économiste, Gisabelle Coupé-Soubéran, et avec d'autres économistes, et l'Institut Veblen, et d'autres économistes qui aussi réfléchissent à ces questions-là, hein. On pense au rapport Pisani-Ferry et Mahfouz. On pense aussi à Alain Grandjean, je crois, et d'autres qui ont quand même des propositions. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une vue de l'esprit, me semble-t-il. Donc, on pourra aller un peu plus dans le détail. Marie Toussaint.
Oui, non, mais c'est important cette question de combien on doit investir et comment. Vous venez de dire, l'inaction, elle va nous coûter cher. Et d'ailleurs, les assureurs nous le disent aussi. Les assureurs sont quand même iconiques du modèle capitaliste financiarisé, mondialisé dont parlait Gisabelle Coupé-Soubéran. Que nous disent les assureurs? Ils nous disent « Nous ne pouvons pas assurer un monde à plus 4 degrés ». Et on l'a vu il y a quelques semaines dans le Pas-de-Calais, quand des milliers de personnes ont perdu momentanément au moins, parfois de façon définitive, leur maison. Eh bien, en fait, ce n'est pas possible de tout prendre en charge. Ce n'est simplement pas possible. Et donc, moi, ce que je veux dire à vos auditeurs et vos auditrices qui peut-être douteraient de la nécessité d'investir pour le climat. Parce que quand on leur parle de dette climatique, en fait, ils peuvent se dire, c'est pas mon souci. Mais faites-le au moins pour les finances publiques. Faites-le au moins pour notre économie. Parce que ce sont des centaines de milliards, plus de 250 milliards selon l'ADEME pour la France, sans parler du reste de l'Europe, pour la France, simplement liée à la question du climat. Sans parler des autres pollutions, hein, sinon je pourrais citer des centaines et des centaines de milliards de coûts qui viennent s'ajouter, mais plus de 250 milliards nécessaires
par an
d'ici 2030, cet argent-là, on peut pas se permettre de le perdre. Et donc, si on veut ne pas le perdre, il faut investir aujourd'hui. Et selon les estimations, on a commandé une étude avec le groupe Vert au Parlement européen.
L'Institut Rousseau, je crois, c'est
l'Institut
ça
Rousseau. Si on veut atteindre nos objectifs pour 2030, pour 2040, pour 2050 de neutralité climatique, on a besoin d'investir 2,3% du PIB européen. Ça tombe bien, c'est à peu près ce que nous disait le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz pour la France. Et dans ces investissements-là, on a besoin de 360 milliards d'euros supplémentaires publics. Public. Parce que, comme vient de le dire Madame Coupé-Soubéran, en fait, il y a des domaines dans lesquels on peut avoir un effet sur le levier privé et d'autres dans lesquels on a besoin d'investissements massifs publics. Les règles budgétaires qui sont aujourd'hui en cours de réforme par la majorité politique européenne, donc les conservateurs, les libéraux amis d'Emmanuel Macron, mais aussi les socialistes européens, elles vont entraver cet investissement. Donc il faut trouver des solutions. Effectivement, il y en a des tonnes. En réalité, on se demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore activé ces leviers. Parce qu'il y a le levier de la Banque Centrale Européenne, il y a le levier de la dette. Et une dette, quand elle est bonne, quand elle est soutenable, quand elle est solide, eh ben en fait, c'est pas grave de l'avoir, parce que ça nous permet d'investir pour l'avenir. Il y a le levier de la taxation. Je peux vous donner quelques chiffres. Je viens de vous dire, on a besoin de 260 milliards. Un ISF européen, ça c'est aussi une autre étude qu'on a menée avec le groupe Vert, parce qu'on essaye de trouver les moyens de pouvoir sauver le climat dans la réalité. Bon, on a fait une étude, un ISF européen qui toucherait les 0,5% les plus riches seulement. Ça nous apporterait entre 213 et 280 milliards par an. Donc, vous voyez bien que même sans parler de la taxation des super-profits, de la taxe sur les transactions financières, du kérosène, donc on écarte d'autres choses, seulement l'ISF, ça nous permettrait de couvrir ces dépenses qu'on a besoin de réaliser chaque année. Donc les solutions, elles sont sur la table, il manque une volonté politique, et cette volonté politique, effectivement, on l'a cherchée dans le cadre de cette mandature, on ne l'a pas trouvée.
Alors, d'autres parlent aussi d'arrêter les subventions étatiques aux projets fossiles, de lutter contre les paradis fiscaux. Il y a des solutions sur la table. On va en parler dans un instant. Après avoir écouté, allez, faut que ça fasse un peu du bien aussi, malgré tout, même s'il y a des solutions, rappelons-le. On va écouter votre choix musical, Gisabelle Coupé-Soubéran. Vous avez proposé la Symphonie des éclairs de Zao de Sagazan. Et on imagine que vous adorez.
J'adore cette voix.
Et une autre raison ou pas ?
Une autre raison, on l'a pas mal écouté quand on a rédigé notre ouvrage le pouvoir de la monnaie. D'ailleurs, on la remercie dans notre ouvrage à la fin. C'est parce qu'il fait toujours beau au-dessus des nuages.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
La symphonie des éclairs de Zao de Sagazan, et ça fait non seulement du bien pour écrire les livres, Gisabelle Coupé-Soubéran, mais aussi pour continuer les émissions et donc poursuivre notre discussion dans l'émission De cause à effet, le magazine de l'environnement de France Culture. Nous sommes en direct et dans le cadre de notre série consacrée à l'Europe verte, dont vous pouvez retrouver les numéros précédents sur franceculture.fr, rubrique De cause à effet, et bien nous nous intéressons au pacte vert et à l'objectif neutralité carbone montagne en Europe à horizon 2050. Nous en discutons avec Jezabel Coupé-Soubéran, économiste, maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, conseillère scientifique à l'Institut Veblen et co-auteur de différents livres, notamment donc Le pouvoir de la monnaie, paru chez Les Liens qui libèrent, et puis on peut mentionner L'économie mondiale 2024 à la découverte aussi, le numéro 101 de L'économie politique, tout ça, nos auditeurs ont l'habitude de retrouver les références sur le site de l'émission. Et avec nous, Marie Toussaint, juriste, députée européenne Europe Écologie Les Verts et tête de liste aux élections européennes. 4 ans après son lancement, quel avenir pour le pacte vert européen et peut-il devenir un choix stratégique pour bâtir une Europe plus souveraine et résiliente? Une ambition, en tout cas, dont parlait la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C'était le 13 septembre 2023.
Le pacte vert pour l'Europe est né de cette nécessité de protéger notre planète. Mais il a également été conçu comme une occasion de préserver notre prospérité future. Nous avons entamé ce mandat en fixant une perspective à long terme avec la loi sur le climat et l'objectif à l'horizon 2050. Nous avons fait évoluer le programme en matière de climat vers un programme économique et cela a donné un signal clair concernant la direction à prendre en matière d'investissement et d'innovation. Et nous avons déjà vu sur le court terme les résultats de cette stratégie de croissance. L'industrie européenne montre chaque jour qu'elle est prête à faciliter cette transition, en faisant la preuve que la modernisation et la décarbonation peuvent aller de pair. Au cours des 5 dernières années, le nombre d'aciéries propres dans l'Union européenne est passé de 0 à 38. Nous attirons aujourd'hui davantage d'investissements dans l'hydrogène propre que les États-Unis et la Chine réunis. Nous célébrerons le lancement du premier porte-conteneur fonctionnant en méthanol propre fabriqué à partir d'énergie solaire. Là est la force de la réponse européenne au changement climatique. Le pacte vert pour l'Europe fournit le cadre, les incitations et les investissements nécessaires. Mais ce sont les citoyens, les inventeurs, les ingénieurs qui élaborent les solutions. Et c'est pourquoi, alors que nous entrons dans la nouvelle phase du pacte vert pour l'Europe, une chose ne changera pas. Nous continuerons à soutenir l'industrie européenne tout au long de cette transition. Et ils peuvent compter sur nous.
S'assurer de la prospérité économique et industrielle de l'Europe tout en protégeant la planète, c'était le message. Alors, où en est-on de cette réindustrialisation de l'Europe? Et puis, on entend bien, hein, c'est le récit aussi de la croissance verte, Jezabel Coupé-Soubéran.
Oui, c'est ça, on l'entend vraiment bien dans ce son, effectivement, c'est vraiment une stratégie de croissance verte qui repose sur l'idée d'innovation, de mobilisation de la technologie, oui, il est question d'une réindustrialisation, la difficulté bien sûr, c'est quand même d'arriver à concilier cette réindustrialisation avec les objectifs environnementaux. Donc ça, c'est pas une mince affaire. Et puis une remarque par rapport aux ordres de grandeur que nous donnions tout à l'heure. L'industrie, justement, toute la transformation de l'industrie, eh bien, c'est souvent en dehors des estimations des besoins d'investissement nécessaires dans le rapport Pisani, dans les travaux d'I4C, je pense, oui, notamment dans le panorama annuel des investissements climat à réaliser et à augmenter. Eh bien, typiquement, il n'y a pas l'industrie, d'accord. Donc
voilà.
Ça s'ajoute. Et Ursula von der Leyen disait on a, avec le pacte vert, le cadre des investissements nécessaires, mais après, il nous faut également, eh bien, les moyens de financer ces investissements, les moyens de transformer l'industrie, les moyens de parvenir à une industrie décarbonée et les moyens, sans doute, d'aller un peu au-delà, en fait, d'une simple croissance verte.
Alors justement, les moyens, parce qu'on n'a pas eu tout loisir de vous entendre sur ces questions-là, finalement, il y a des solutions, c'est-à-dire création d'un volume de monnaie centrale, sans dette, voilà, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus.
Oui, alors il ne s'agit pas, je pense, d'opposer les solutions. Je suis d'accord avec Marie Toussaint, c'est-à-dire que on peut essayer de trouver des solutions du côté de la dette publique. On peut essayer de trouver des solutions fiscales également. Mais je crois que voilà, il faut absolument pas s'empêcher de penser à des solutions monétaires, parce que on voit bien quand même dans quel carcan budgétaire on est enfermé en Europe, et on sait bien aussi que les solutions fiscales, même s'il faut essayer d'en trouver, ce n'est jamais facile politiquement d'y parvenir. Alors que au niveau des solutions monétaires, eh bien, ce qu'on a pu remarquer, c'est que parfois, quand même, nécessité fait loi. Et donc, au niveau des solutions monétaires, eh bien, on peut imaginer pas mal de choses. On peut imaginer la transposition, simplement, de ce qui s'est fait pour gérer la crise. Les banques centrales ont acheté beaucoup de titres de dette publique. Eh bien, elles pourraient acheter des titres de dette publique émis spécialement par les États pour financer des investissements du pacte vert. Ce serait pas une panacée, parce que ça enrichirait d'abord les investisseurs privés, ça augmenterait sans doute les inégalités, l'instabilité financière, mais ça donnerait un peu de marge de manœuvre. Il y a encore d'autres solutions. Et moi, la solution qui me semble...
Ouais, qui serait la panacée, voilà, ce serait laquelle ?
La plus intéressante, c'est une solution dans laquelle on s'intéresse précisément à tous ces investissements non rentables financièrement, mais indispensables sur un plan écologique et social. Ces investissements-là n'ont pas de retour financier. Donc, il ne s'agit pas de les financer avec de la dette, parce qu'une dette, ça se rembourse. En revanche, on pourrait les financer avec des subventions de monnaie centrale. C'est-à-dire que la banque centrale pourrait émettre de la monnaie centrale sans contrepartie financière. Alors, ne pas donner ça aux États, puisque ça, c'est interdit dans le cadre du traité. Donc, si on fait ça, on se heurte, si vous voulez, à des discussions à n'en plus finir, parce qu'il faudrait changer le traité. En revanche, si ces subventions de monnaie centrale allaient à un réseau de sociétés financières publiques, d'accord, une sorte de caisse de développement durable, elle-même chargée d'allouer des subventions à tout un ensemble d'agents, des particuliers, des entreprises, des organismes publics, eh bien là, en fait, on serait dans une solution qui n'est pas explicitement incompatible avec le traité. Il y aurait des discussions, sans doute, mais c'est pas incompatible avec le traité. On aiderait les gens à entrer dans la transition. On pourrait faire accepter des taxations environnementales, puisque les gens seraient aidés à changer, à rénover leur logement, sur le plan thermique, j'entends, à faire des rénovations thermiques, à changer leur chaudière, etc. Les entreprises, et celles notamment dans le secteur de l'industrie, seraient également aidées par ce type de dispositif à décarboner leur industrie. À partir du moment, si vous voulez, où on enclenche ce dispositif, où on élève la capacité de subvention, donc la capacité d'aide à faire entrer tout le monde dans la transition, là, on peut mettre en place en complément d'autres dispositifs, et notamment des taxations environnementales plus ambitieuses pour poursuivre le changement de comportement.
Qui a la main pour mettre ça en place ?
Qui a la main ? Eh bien, si vous voulez, je pense que c'est à nos parlementaires là d'agir, et notamment à nos parlementaires européens de porter ce type de proposition. Alors, peut-être que ça pourrait venir en fait de la Banque centrale elle-même, à partir du moment où ça reste dans le traité, dans son mandat. Bon, cela étant, les banques centrales sont quand même des institutions très conservatrices. Elles ont su innover quand elles ont fait du QE, mais l'objectif, c'était la préservation du modèle, la préservation du capitalisme financiarisé. Là, on serait, si vous voulez, dans un objectif davantage de transformation. Et donc, Peut-être qu'on se, voilà, peut-être qu'il faut pas attendre des banques centrales, évidemment, que qu'elles nous offrent ce type de solution, mais en revanche, il faut faire pression sur les banques centrales pour obtenir ce type de solution.
Et souffler l'idée. En tout cas, on voit bien que ça pourrait aussi résoudre la question de l'acceptabilité, hein, parce que plus on avance avec ce réchauffement climatique, plus il y a des conséquences, et plus on a parlé du millefeuille aussi de crise. Donc, on voit bien qu'il y a une réticence aussi dans les opinions publiques de souffrir ou de mettre la main au porte-monnaie. Au niveau exigé, voyez. Donc, effectivement, cette solution-là pourrait peut-être permettre aussi un peu plus d'égalité ou de volet social, Marie Toussaint, sur ces.
Oui, mais en fait, moi, je suis désolée, Aurélie, parce que j'ai un problème avec la notion d'acceptabilité. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on est dans un système inacceptable. On a un taux de précarité qui explose. Et c'est pas à cause des politiques environnementales, là encore, comme pour les paysannes et les paysans. Près de 100 millions de personnes en Europe sont soit en situation de pauvreté, soit en risque de sombrer dans la grande précarité. Et d'ailleurs, je crois que la violence de cette crise sociale est l'une des raisons de l'explosion des nationaux-populismes. Et au fond, on dit beaucoup, il y a un problème d'acceptabilité sociale de la transition écolo. Mais on a aujourd'hui un écart d'espérance de vie de plus de 13 ans entre les plus riches et les plus pauvres. Et donc, pour moi, les inégalités sont inacceptables, la pauvreté et la misère sont inacceptables, a fortiori quand la promesse européenne c'était d'apporter la prospérité pour toutes et pour tous, et non pas d'accepter que certaines et certains soient perdus pour la cause. Le président de la République a dit « certains ne sont rien », ça me heurte profondément, je pense que c'est inacceptable. Et donc, on doit agir pour la justice. Si on ne tient pas compte du fait que on n'a qu'une seule planète et qu'il faut répartir les ressources, que ce sont les plus pauvres qui sont confrontés à la malbouffe, qui sont confrontés à la pollution de l'air, qui sont confrontés dans leur travail à l'exposition aux produits toxiques. Et je pourrais en donner beaucoup des exemples comme ça. Eh bien, on ne comprend pas que la justice est dans l'écologie comme l'écologie est dans la justice. Donc, je crois que c'est important de le souligner.
Vous parlez de la justice. La solution aussi de partir en justice pour faire avancer les choses, les procès, c'est un autre levier qui permettrait peut-être d'avancer sur les solutions.
Oui, moi je suis une militante de la justice. Je viens d'ATD Quart-Monde et de la lutte contre la pauvreté, où ce qui était porté, c'était le fait que, en fait, il fallait pas donner quelque chose à quelqu'un, sinon c'est toujours la main d'en haut qui tend vers le bas. Mais par contre, chaque être humain est doté de droits, et donc il faut qu'on construise des mécaniques pour permettre aux personnes de défendre eux-mêmes leurs droits. Et c'est vrai que j'ai avancé dans mon combat pour le climat, pour la justice, les deux ensemble, en me disant comment on peut faire. Et donc en 2015, j'ai fondé l'association Notre Affaire à Tous. Je travaillais déjà depuis un petit bout de temps avec Valérie Gabanès, que vous recevez de temps en temps dans votre émission, qui se battait pour la reconnaissance du crime d'écocide. Et donc on a porté, et on s'est levé, beaucoup d'entre nous en même temps autour de la planète, pour porter des grandes actions en justice pour inaction climatique, contre nos États d'abord. On a gagné au Pakistan, puis on a gagné aux Pays-Bas, où les Pays-Bas ont été contraints de rehausser leurs objectifs de lutte contre le dérèglement climatique. En Allemagne, pareil, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne va deux fois plus vite que la France dans la décarbonation de leur économie. On a gagné en Colombie, aussi au Royaume-Uni, et évidemment en France, avec l'affaire du siècle, 2,5 millions de citoyens. Et puis on a aussi porté des actions contre les entreprises. Et là, je dois vous avouer que c'est un peu plus compliqué, parce que même si Total, pour ne prendre qu'elle, parce que Shell a été condamnée, par exemple, par la justice aux Pays-Bas, mais même si Total a une stratégie de déploiement qui outrepasse très largement les objectifs de l'accord de Paris, qui viole à la fois les droits humains et les objectifs climatiques, eh bien, on ne peut pas, pour l'instant, les en tenir responsables, on ne peut pas les contraindre à changer d'orientation. Et ces outils-là, ils doivent exister. Ça passe par l'action dans les tribunaux, ça passe aussi par le fait de changer les lois, et c'est bien le combat que je veux continuer à porter au Parlement européen. Je refuse que l'on cède à la résignation, à la fatalité. Moi, c'est aussi ça que je veux dire à vos auditeurs et vos auditrices. En fait, on a les moyens, on peut savoir le faire, de changer la donne, de changer de trajectoire, de garantir la possibilité d'une vie humaine digne et heureuse sur cette planète, si on agit maintenant. Et donc, il faut le faire, donc faisons-le.
Et se donner les moyens, c'est aussi trouver les solutions de financement. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Marie Toussaint. Mmh. Mais il y a quand même, il y a une histoire de coûts. Et ces coûts, eh bien, il faut pouvoir justement les supporter. Il faut se donner les moyens de financer cette transition. Et donc, voilà, il y a cet aspect-là. Et c'est en cela que si on se donne les moyens de financer la transition, on la fera. Malgré tout, mieux accepter,
même et dans
si
de bonnes conditions pour si tout le monde.
Oui, c'est voilà, ça. Même si le terme d'acceptation n'est oui, pas trop marrant.
Mais on a aujourd'hui un codage juridique du capital, en fait mondialisé, hein, qui permet aux entreprises de défendre leurs investissements et leurs profits en permanence sur les décisions que prennent les peuples. Et là aussi, il y a des affaires d'argent. Quand, je vous ai dit, aux Pays-Bas, les citoyens gagnent pour rehausser les objectifs climatiques. RWE, qui est une grande entreprise pétrogazière, équivalente Total mais allemande, attaque les Pays-Bas parce qu'ils ont porté atteinte à leurs profits. De la même manière que Vinci attaque aujourd'hui l'État français pour ne pas avoir fait l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ça, on peut le changer, ce quotage juridique du capital, on peut le désamorcer. Pendant cette mandature, j'ai gagné l'inscription du crime d'écocide dans le droit européen. Donc on peut changer la donne à la fois en termes de droit et en termes de financement, effectivement.
Voilà. Alors, on va rester avec nous, on va laisser la parole aussi à notre partenaire Le Monde, parce qu'il est l'heure de retrouver l'œil du monde planète en partenariat avec le journal Le Monde. Et nous sommes avec Mathieu Gohard, qui a porté son regard sur la planification écologique promise par Emmanuel Macron en 2022. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Aurélie. Eh bien, ce soir, on peut commencer pour une fois par une bonne nouvelle, peut-être. On a appris la semaine dernière que les émissions de gaz à effet de serre avaient diminué de 4,8% en France en 2023. C'est une baisse inédite qui met le pays un peu plus sur la voie de son objectif de réduire de 55% les émissions en 2030. Est-ce que ça veut dire que cette tendance va se poursuivre naturellement ? Non, car il est très difficile pour le moment de savoir ce qui est de l'ordre du structurel ou du conjoncturel. La douceur de la météo, le contexte économique très morose, la sobriété subie à cause de l'inflation, tout cela a pu jouer et pourrait ne pas se reproduire dans les années à venir. Pour ce qui est de la gouvernance climatique, Macron a tenu son engagement puisqu'un SGPE, un secrétariat général à la planification écologique, a été installé à Matignon et il a tracé les trajectoires de baisse des émissions secteur par secteur jusqu'en 2030. C'est un travail de préparation fondamental qui a été salué par tous les acteurs, mais qui n'a pas toujours été suivi de décisions très fortes. Et depuis plusieurs semaines, de nombreux signaux inquiétants se multiplient.
Mais cette planification écologique est-elle bien intégrée par la machine étatique ?
Non, et c'est un problème majeur qu'on a pu constater depuis le début de l'année. D'abord au moment de la crise agricole, où le gouvernement a tenté de calmer la colère en reculant sur les normes ou en s'attaquant au plan éco-phyto. Or, on sait que la préservation de la biodiversité est un point très important des objectifs à long terme de décarbonation. Ensuite, au moment de trouver des économies, les fameux 10 milliards d'euros de Bruno Le Maire, le gouvernement de Gabriel Attal a pioché 2,2 milliards dans le budget vert en s'attaquant à deux pans importants de la planification, la rénovation énergétique des bâtiments avec une réduction d'un milliard d'euros de MaPrimeRénov', ou encore l'action des collectivités locales avec 400 millions d'euros ponctionnés sur le fonds vert, une manne dont se servent les communes pour faire des travaux utiles d'un point de vue climatique. Mais surtout au moment des arbitrages, le SGPE n'a pas été consulté par Bercy pour savoir quels impacts ces économies auraient sur les trajectoires d'émissions de CO2. C'est justement tout l'intérêt d'une planification, de prendre les décisions en fonction des courbes de gaz à effet de serre. Cela montre que la planification est encore une variable d'ajustement, alors qu'elle devrait être un pilier de l'action gouvernementale.
À suivre donc. Merci Mathieu Gohard.
Merci Aurélie.
Et votre article sur la planification écologique percutée par les crises est accessible bien sûr sur la page de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, et sur lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Alors, dans la dernière minute à peu près restante, je vous propose toutes les deux de peut-être nous dire votre mot de la fin, qui peut être voilà, ou soit un coup de gueule, soit un appel, comme vous voulez. Isabelle Coupé-Soubéran, allez-y.
Non, se donner les moyens. Il y a les objectifs et puis il y a les moyens. Il faut se donner les moyens. Je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer la question du financement de cette transition écologique, du financement de tous les investissements dont on a besoin, et il faut un peu d'audace dans les solutions de financement, et ne pas opposer les solutions de financement, mais ne pas en rester, je pense, à des solutions financières des sociétés du monde d'hier. Voilà, il nous faut vraiment entrer dans le monde d'après.
Marie Toussaint.
Je veux lancer un appel à toutes celles et tous ceux qui espèrent, à toutes celles et tous ceux qui agissent, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui ont envie de baisser les bras. Et je veux leur dire que quand on se mobilise, on arrive à changer les choses. J'ai parlé de l'affaire du siècle, mais on a parlé en début d'émission, on a ouvert cette émission sur la magnifique mobilisation citoyenne de 2018-2019, qui a donné le pacte vert, qui est certes insuffisant, mais qui doit absolument être défendu. On a vu, en Pologne comme en Espagne, des pronostics électoraux déjoués par la mobilisation de la jeunesse, des femmes, des citoyennes, des citoyens. Et donc, je veux leur dire que le 9 juin 2024, tout est encore possible, et que pour le climat, pour la planète, tout est encore possible, si tant est qu'il et elle se mobilisent.
Merci à toutes les deux. Merci Marie Toussaint, merci Gisabelle Coupet-Soubéran. Je rappelle certains titres de vos livres coécrits, L'économie mondiale 2024, édité à La Découverte. On peut aussi mentionner le numéro 101 de L'économie politique, la revue trimestrielle, et le numéro intitulé Quelle Europe face au désordre mondial, et puis Le pouvoir de la monnaie, édité au Lien qui libère. Bien sûr, toutes ces références, les liens vous attendent sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, et les numéros de la série sur l'Europe verte y sont à découvrir.